Volume 6, Les œuvres de George Fox, Livre Doctrinosii, suite l'état des naissances temporelles et spirituelles, et le devoir et l'état d'un enfant, d'un adolescent, de jeunes hommes, d'hommes âgés et de pères dans la vérité, montrant aussi que les enfants sont l'héritage du Seigneur et qu'il a une gloire en eux. Par George Fox, l'état et le devoir d'un enfant, d'un adolescent et de jeunes hommes, et l'état des hommes âgés et des pères, c'est le Seigneur qui amène à la naissance. David a dit, « Ma substance ne t'était pas cachée quand j'ai été formé en secret. Tes yeux ont vu ma substance encore informe, et dans ton livre tous mes membres étaient écrits, lesquels, au fil du temps, ont été façonnés, alors qu'aucun de n'existait encore, car tu possédais mes reins lorsque tu me couvrais dans le sein de ma mère. » Ici, vous pouvez voir l'œil, l'œuvre et la providence infinie et omnivoyante de Dieu. Ni l'obscurité, ni les secrets ne se cachent à Dieu, mais la nuit brille pour lui comme le jour, et l'obscurité et la lumière sont pareilles à son œil qui voit tout, lui qui a fait l'une et l'autre, et c'est pourquoi tous doivent considérer comment Dieu les a fait et façonnés. Psaume 139, 12-16. Et le Seigneur dit en Ésaïe 66, 9, « Ferai-je arriver à l'enfantement et ne ferai-je pas enfanter ?» dit le Seigneur, « Ferai-je enfanter et fermerai-je le sein ?» dit mon Dieu. Ainsi, vous pouvez voir ici que c'est le Seigneur qui façonne dans le sein astérisque et qui met au monde aussi bien la naissance naturelle que la naissance spirituelle, et qui ouvre le sein et le ferme, tant le sein du matin que celui de l'éternité et celui du naturel. Astérisque plus loin, le témoignage biblique de la vie dans le sein, son nom fut appelé Jésus, qui était le nom donné par l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein. Luc 2, 21 Et il arriva que, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, le bébé tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Pourquoi m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Car voici, dès que la voix de ta salutation a retenti à mes oreilles, le bébé dans mon sein a tressailli d'allégresse. Luc 1, 41-44 Voici, les enfants sont un héritage du Seigneur, et le fruit du sein est sa récompense. Comme des flèches dans la main d'un homme puissant, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a son carquois plein, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec leurs ennemis à la porte. Psaume 127-3-5 Et le Seigneur dit à Jérémie 1-5 Avant que je te forme dans le ventre, je te connaissais, et avant que tu sortes du sein, je t'ai sanctifié. Si tous peuvent voir ici, et considérer, et se connaître comme la grande œuvre de Dieu, que lorsque Dieu qui vous forme et vous façonne dans le sein, et vous mène à la naissance, et vous a fait venir au monde, vous puissiez choisir le bien et délaisser le mal, que vous puissiez vous souvenir et considérer que vous êtes l'œuvre du Seigneur, et vous souvenir de votre Créateur et de celui qui vous a façonné et formé dans le sein, et qui vous a amené à la naissance, et vous a fait venir au monde pour le craindre, le servir, l'adorer et l'honorer, lui. Car, comme Salomon l'a dit en Écl 12, 1, « Souviens-toi maintenant de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que ne viennent les mauvais jours, ou avant que les mauvais jours ne viennent. » Et maintenant le devoir de toute jeunesse, qu'elle soit masculine ou féminine, se souvenir de son Créateur et ne pas le laisser sortir de sa mémoire, afin d'être apte à tenir ferme aux mauvais jours lorsqu'ils viennent, car lorsqu'ils grandissent pour devenir de jeunes hommes, alors apparaîtront les mauvais jours, dans lesquels ils peuvent être tentés par l'adultère, la fornication, l'ivrognerie, le vol, le meurtre, le mensonge, la tromperie, la fraude, l'injustice, l'impiété, la légèreté, la débauche, les plaisirs et d'autres mots, par lesquels les mauvais jours viennent éprouver la jeunesse, car ceux qui cèdent aux mots susmentionnés oublient leur Créateur et l'abandonnent, car Salomon a dit, « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas. » Proverbes 2, 6 Voici le devoir des parents et le devoir des enfants, qui doivent être pratiqués et suivis. Or voici le devoir de la jeunesse, se souvenir de son Créateur au jour de sa jeunesse, avant que ne viennent les mauvais jours. Mais que devons-nous faire lorsque nous devenons de jeunes hommes? Quel est leur moyen et leur devoir? David a déclaré au psaume 119:9 « Comment un jeune homme rendra-t-il sa voix pure, en prenant garde à ta parole et en la surveillant? J'ai retenu ta parole, commandement prononcé dans mon cœur, et je méditerai tes préceptes, afin de ne pas pécher contre toi. » Ainsi donc, que tous les jeunes hommes prennent garde à la parole de Dieu dans leur cœur, qu'ils la cachent dans leur cœur et la méditent, car la parole est appelée un marteau, une épée et un feu, pour abattre, couper et consumer ce qui les souillerait dans leur voix, leurs paroles et leur cœur. Et l'apôtre dit, que la parole de foi qu'ils prêchaient était dans leur cœur et dans leur bouche, afin de lui obéir et de la mettre en pratique, Rome 10, 8, 17. Et Jacques dit que la parole implantée pouvait sauver leurs âmes. Et Pierre dit qu'ils devaient se nourrir du lait pur de la parole, mais ceux qui sont auditeurs de la parole et non praticiens de la parole trompent leur propre âme, Jacques 1, 22. Et Christ dit à ses disciples, « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. » Ainsi cette parole gardera pure les voix et les cœurs des jeunes hommes, la parole de Dieu, qui est une parole sanctifiante, une parole de réconciliation, et Christ dit aux Juifs que sa parole n'avait point de place en eux. Et encore, il dit aux Juifs impurs, Vous n'avez pas sa parole, c'est-à-dire la parole de Dieu demeurant en vous. Jean 5, 38. Ainsi, ces Juifs faisaient une grande profession des Écritures, mais n'avaient pas la parole de Dieu demeurant en eux, ils n'étaient donc guère susceptibles d'en être purifiés. Et Christ dit, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité », c'est-à-dire ses disciples et les croyants. Et encore Christ dit, « Je leur ai donné, c'est-à-dire à ses disciples ta parole, et ils ont gardé ta parole, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Jean 17, 17, 17, 8. Or, vous pouvez voir ici que les disciples ont gardé la parole de Dieu, qui était le moyen de garder leur cœur, leur voix et leur parole pure. Mais les Juifs, prêtres, scribes et pharisiens, qui faisaient une grande profession extérieure des Écritures, dont les voix étaient impures, et dont les bouches étaient pleines de paroles impures et infectes contre Christ, Christ leur dit que la parole de Dieu ne demeurait pas en eux. Et par conséquent, bien qu'ils lisent les Écritures et en fissent une profession extérieure, comme les professants de notre époque et d'autres qui s'éloignent du moyen, la parole de Dieu dans leur cœur, pour garder leur voix et leurs lèvres pures et les sanctifier, ils plaident donc pour un corps de mort jusqu'à la tombe et pour un purgatoire après la mort, eux qui vivent dans une profession de la lettre sans la parole. Et Jean dit, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le méchant, c'est-à-dire le diable, par la parole de Dieu, qui était avant que le diable fût. » Ainsi, vous pouvez voir ici quel est le moyen par lequel les voix des jeunes hommes sont purifiées et sanctifiées, et ce qui les rend forts et leur fait vaincre le méchant, la parole de Dieu demeurant en eux. C'est pourquoi chaque jeune homme, et tous les jeunes, doivent aimer, obéir et faire la parole de Dieu, par laquelle leur voix, leurs paroles et leur cœur, et tout leur être peuvent être gardés purs, car la parole de Dieu est un marteau et une épée pour abattre et trancher le diable et ses œuvres, et un feu pour les consumer. Elle est donc la parole de puissance, la parole de sagesse, la parole de réconciliation et la parole de patience, par laquelle ils vainquent. Or, concernant les hommes âgés ou les pères dans la vérité, Jean dit, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire Christ Jésus. » Et Jean écrit lui-même comme un père, lui qui dit, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons cette vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » 1 Jean 1, 2. Ainsi, vous pouvez voir ici que non seulement Jean dans son épître, mais aussi Jean dans son évangile livre de Jean déclare Christ au commencement, et dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et sans elle rien de ce qui a été fait n'a été fait, et la parole a été faite chair, et elle a demeuré en nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vie. » Jean 1, 1, 3, 14. Or vous pouvez voir ici comment Jean écrit comme un père, qui connaissait Christ tel qu'il était au commencement, et il écrit au Père qui connaissait Christ tel qu'au commencement. Ainsi, les pères l'ont connu dans la gloire qu'il avait avec le Père avant que le monde fût, et ils ont su que toutes choses ont été faites par Jésus-Christ. Ils l'ont donc connu tel qu'il était Dieu, la parole. Ils ont connu Christ tel qu'il était homme, la parole a été faite chair. Et ils ont connu Christ dans les promesses et dans les prophéties, ils l'ont connu dans les figures, types et ombres établies sous la loi. Ils l'ont connu, et ils ont connu de qui il devait être conçu, à savoir la Vierge. Ils l'ont connu dans sa naissance, sa vie, sa doctrine, sa prédication, ses miracles, ses souffrances, sa mort, sa tombe, sa résurrection et son ascension dans la gloire avec le Père, et à sa droite, oui, la gloire qu'il avait avec le Père avant que le monde fût. Ainsi les pères ont connu, noté, ont connu Christ dès le commencement. 1 Jean 2, 14. Ainsi, vous pouvez voir ici l'état de la naissance temporelle et spirituelle, et le devoir et l'état de la jeunesse, le devoir et l'état des jeunes hommes et des jeunes gens, et l'état des pères dans la vérité. George Fox Kingston, le 10 mois, 1684 post-scriptum David a dit, « Voici, les enfants sont un héritage du Seigneur, et le fruit du Saint est sa récompense. Comme des flèches dans la main d'un homme puissant, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a son carquois plein, ils ne seront pas confus, mais ils parleront à l'ennemi à la porte. » Psaume 127, 3, 5. « Heureux quiconque craint le Seigneur qui marche dans ses voies, car tu mangeras le travail de tes mains. Tu seras heureux, et tout ira bien pour toi. Ta femme sera comme une vigne féconde sur les côtés de ta maison, tes enfants comme des plants d'olivier tout autour de ta table. Voici, c'est ainsi que sera béni l'homme qui craint le Seigneur, oui, tu verras les enfants de tes enfants, et le Seigneur te bénira depuis Sion. » Psaume 128. Or vous tous qui murmurez contre les gens qui ont beaucoup d'enfants, et qui vous plaignez en disant qu'ils remplissent vos bourgs, vos villes et vos pays d'enfants. Et bien des fois, vous qui vous plaignez ainsi avez peu d'enfants, voire aucun, et vous avez peur qu'ils viennent à manquer, et qu'alors vous deviez consentir à soulager leurs besoins. Et alors, ce que vous donnez aux pauvres, vous le prêtez au Seigneur, et il vous le rendra s'ils ne le peuvent pas. Et cet esprit de manque vient d'un manque de foi en Dieu, qui donne l'accroissement de toutes choses, et qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et le Seigneur voudrait que vous remarquiez que les enfants sont l'héritage du Seigneur. Ainsi, ce que vous donnez pour engendrer, nourrir et secourir les enfants, vous le faites pour l'héritage du Seigneur, et le Seigneur a de nombreux fils adoptifs qu'il a pris pour être sien, qui ont reçu l'adoption des fils Galates 4:5, et qu'en serait-il si vous, qui n'avez pas d'enfants, faisiez ainsi? Ce ne serait qu'une croix pour le moi grognon et murmureur, qui bien des fois n'a pas d'enfants et se montre mécontent des pauvres qui en ont beaucoup, et qui trouve pénible soit de les adopter pour vous-même, et craint qu'ils ne vous coûtent, à savoir les enfants qui sont l'héritage du Seigneur. Mais le Seigneur, qui augmente les enfants qui sont son héritage, prendra soin de son héritage. Qu'il y ait ou non un murmure d'un esprit plaintif contre les pauvres qui ont tant d'enfants, et que vous les secouriez ou non, il prendra soin de son héritage. Béni soit son nom à jamais. Amen. Chantez à Dieu, chantez des louanges à son nom, exaltez celui qui chevauche sur les cieux par son nom Jah, et réjouissez-vous devant lui. Dieu dans sa sainte demeure est un père des orphelins et un juge des veuves. Psaume 68:4-5. Les paroles d'autrefois, que nous avons entendues et connues, et que nos pères nous ont racontées, nous ne les cacherons pas à leurs enfants, nous annoncerons à la génération à venir les louanges du Seigneur. Psaume 78:2-4. Et David dit, « Que ton œuvre paraisse à tes serviteurs et ta gloire à leurs enfants, et que la beauté du Seigneur soit sur nous. » Psaume 90:16-17. Voyez quel amour céleste il avait pour les enfants, l'héritage de Dieu. Ainsi, ils ne sont pas dans la pensée de David, ceux qui croient qu'ils seront ruinés en entretenant les enfants des pauvres, lesquels enfants sont l'héritage de Dieu. Et David dit, « Vous êtes bénis du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, les cieux, même les cieux, sont au Seigneur, mais la terre, il l'a donnée au fil des hommes. » Psaume 115:15-16. Et le Seigneur dit à David, « Si tes enfants gardent mon alliance et mon témoignage, que je leur enseignerai, leurs enfants aussi siégeront sur ton trône à perpétuité. » Psaume 132:12. Louez le Seigneur, ô Jérusalem, louez ton Dieu, ô Sion, car il a renforcé les barres de tes portes, il a béni tes enfants avec toi. Psaume 147:12-13. Ce sont ceux qui demeurent dans l'alliance et le témoignage que Dieu leur donne, qui ont ces bénédictions. Et vous pouvez voir la tendresse de Joseph envers son père, envers ses enfants, et envers les enfants de ses enfants, au jour de la famine, lorsqu'il était en Égypte. Gênesis 45. Ici il eut de la tendresse pour les enfants, qui sont l'héritage du Seigneur. Et le Seigneur dit, « Trois fois l'an, tous vos enfants mâles paraîtront devant le Seigneur Dieu d'Israël. » Exode 34:23. Ici vous pouvez voir le soin que le Seigneur prend pour que les enfants, qui sont son héritage, soient familiarisés avec lui, ce qui devrait être le devoir de tous les parents. Et le Seigneur dit, « Prends garde à toi, et garde soigneusement ton âme de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne s'éloignent de ton cœur tous les jours de ta vie, mais enseigne-les à tes fils et au fil de tes fils, particulièrement le jour où tu te tins devant le Seigneur ton Dieu à Horeb, lorsque le Seigneur me dit à savoir à Moïse, « Rassemble-moi le peuple, et je leur ferai entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tous les jours qu'ils vivront sur la terre, et qu'ils enseignent leurs enfants. » 2:4-9-10. Ici, vous pouvez voir le soin du Seigneur pour son peuple, et comment il leur est commandé d'enseigner leurs enfants, oui, les fils de leurs fils, afin que les enfants, qui sont l'héritage de Dieu, soient instruits par leurs parents dans les choses de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu dit, « Vous ne ferez aucune sorte d'ouvrage le jour du sabbat, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Tous devaient se reposer le jour du sabbat, dans l'ancienne alliance, ainsi tous les croyants, qu'ils soient maîtres, maîtresses, fils, filles ou étrangers, doivent se reposer en Christ dans la nouvelle alliance, car celui qui croit est entré dans le repos de Christ et cesse de ses propres œuvres, comme Dieu a cessé des siennes. Sache donc aujourd'hui et considère dans ton cœur, notez dans ton cœur, que le Seigneur, lui, est Dieu dans le ciel en haut et sur la terre en bas, il n'y en a point d'autre. Ainsi, par l'Esprit de Dieu, vous pouvez le connaître dans le ciel et le connaître sur la terre. Et vous garderez donc ces statuts et ces commandements que je vous ordonne aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges tes jours sur la terre. Ici encore, vous pouvez voir quel soin le Seigneur prend pour son peuple et ses enfants. 2:39-40. Et vous pouvez voir, dans Néhémie 5:5, comment ils se plaignaient d'eux et de leurs enfants. Leurs fils et leurs filles furent réduits en esclavage, à cause de leurs égarements loin des commandements du Seigneur. Et dans Néhémie 9, comment ils s'étaient rebellés contre le bon esprit du Seigneur qu'il leur avait donné pour les instruire. Et n'est-ce pas la cause aujourd'hui de la confusion des chrétiens, la rébellion contre le bon esprit de Dieu, bien qu'ils puissent faire une profession extérieure du Nouveau Testament, comme les Juifs le faisaient de l'Ancien. Ainsi parla le Seigneur en Ésaïe 49, 22, « Voici, je lèverai ma main vers les nations, et je dresserai mon étendard vers les peuples, et cet étendard n'est-il pas Christ, et ils porteront tes fils dans leurs bras, et tes filles seront portées sur leurs épaules. Et où portent-ils leurs enfants, leurs fils et leurs filles, n'est-ce pas vers Christ qui les instruit et les bénit ?» Le Seigneur dit, « Je ferai de toutes mes montagnes un chemin, et mon chemin sera élevé. Et la route de Dieu et de Christ n'est-elle pas sa lumière? C'est le sentier une lumière brillante des justes, et la route vers le jour parfait. Et les rois seront des pères nourriciers, et les reines des mères nourricières. Et ce sera un jour heureux lorsqu'ils viendront nourrir les poussins, colombes, agneaux nourrissons et petits-enfants de Christ. Alors la persécution cessera pour n'avoir pas prêté serment ni juré, pour n'avoir pas payé la dîme, et pour n'être pas allé au culte dans des temples faits de main, astérisque, et alors la doctrine de Christ sera obéie. Lui qui a dit, ne jurez point du tout, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et alors chacun qui a reçu gratuitement de Christ le donnera gratuitement, comme il le commande, alors chacun saura que ses corps sont les temples du Dieu vivant, et alors chacun marchera dans la lumière, la route de Dieu, qui sera élevée, et en elle ils ont communion les uns avec les autres, et le sang de Christ, le Fils de Dieu, vous purifie de tout péché. Astérisque des dizaines de milliers des premiers Quakers furent arrêtés, jugés et emprisonnés pour un culte différent de la prière commune épiscopalienne, pour n'avoir pas payé la dîme, pour avoir refusé de jurer ou de prêter serment, et pour avoir voyagé le jour du sabbat du premier jour, qui n'existe pas dans les Écritures. Et Ésaïe 54, 13-14, « Tous tes enfants seront enseignés par le Seigneur, et grande sera la paix de tes enfants qui sont enseignés par le Seigneur. Ils seront affermis dans la justice ceux qui sont enseignés par le Seigneur. » Tu seras loin de l'oppression, tu ne craindras pas, et loin de la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi, vous qui êtes enseignés par le Seigneur. Voici, ils se rassembleront, mais pas par moi, donc c'est par l'esprit méchant, et quiconque se rassemblera contre toi tombera à cause de toi, vous qui êtes enseignés par le Seigneur. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur justice vient de moi, dit le Seigneur. Et dans 1 Roi 2, 4, David dit, « Afin que le Seigneur confirme sa parole qu'il a prononcée à mon sujet, disant, « Si tes enfants veillent sur leur voie, pour marcher devant moi en vérité, de tout leur cœur et de toute leur âme, il ne te manquera pas, dit-il, un homme pour s'asseoir sur le trône d'Israël. Veille à ce que tes enfants prennent garde à leur voie, et marchent devant moi comme tu as marché devant moi, à savoir David. » Or ici, vous pouvez voir que le fait de ne pas marcher dans la vérité devant le Seigneur de toute leur âme et de tout leur cœur a produit une telle confusion parmi les Juifs, et produit aussi, ou a produit, une telle confusion parmi les chrétiens, car le fait de ne pas marcher devant Dieu dans la vérité les a tenus éloignés du trône d'Israël. Et c'est pourquoi les enfants doivent suivre le chemin de leur père dans la vérité, s'ils veulent être acceptés et élevés par le Seigneur, et s'ils veulent jouir du réconfort du Seigneur comme leurs pères en jouissaient, avec la promesse, comme en 1 Roi 2, 4, 8, 25. Dans Michée 2, 9, il s'élève contre leur oppression et reprend les Juifs pour leur injustice et leur idolâtrie, et dit, « Les femmes de mon peuple, vous les avez chassées de leur maison, aux enfants vous avez enlevé ma gloire, à savoir celle du Seigneur, car les enfants sont l'héritage du Seigneur, et il a une gloire en eux. » Joël annonce divers jugements de Dieu, exhorte les Juifs à les observer, et dit aux vieillards, « Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et que leurs enfants le racontent à une autre génération. Voyez quels soins il y avait ici, et quelles veilles étaient établies, afin que les enfants des enfants puissent échapper au jugement de Dieu, en marchant dans la vérité et en demeurant attachés au Seigneur de tout leur cœur. Et les enfants, qui étaient l'héritage du Seigneur, devaient s'avertir et se dire les uns aux autres de marcher dans la crainte et la voie du Seigneur de tout leur cœur, afin qu'il ait sa gloire en eux, et en leurs enfants qui sont son héritage. Et vous pouvez voir en Luc 19, 43-44 les jugements que Christ prononce sur les Juifs et leurs enfants, qui ont désobéi à Dieu et n'ont pas cru en lui. Et Christ dit, « Tant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous deveniez des enfants de la lumière. » Ici, Christ encourage ses croyants avec un nouveau nom, ceux qui croient en la lumière, à savoir enfants de la lumière. Jean 12, 36. Et Paul dit aux croyants dans la lumière, « Vous étiez autrefois ténèbres, c'était lorsqu'ils ne croyaient pas en la lumière, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de la lumière. » Éphésiens 5, 8. « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour, nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. » 1, 5, 5. Tels sont les croyants dans la lumière, comme Christ le commande. Et Jean dit, « Mes petits-enfants, 1 Jean 2:2, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste, mais ils doivent se garder de pécher volontairement. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Voici un réconfort pour les petits-enfants de Christ. » De nouveau, Jean dit aux petits-enfants, « C'est la dernière heure, et comme vous avez entendu que l'Antéchrist devait venir, maintenant déjà il y a plusieurs Antéchrists, par quoi nous connaissons que c'est la dernière heure, ils sont sortis du milieu de nous à savoir l'Antéchrist, mais ils n'étaient pas des nôtres à savoir les membres élus de l'Église de Christ, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient sans doute demeurés avec nous, mais ils sont sortis afin qu'il fût manifeste qu'ils n'étaient pas tous des nôtres. Et je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent, mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vérité et qu'elle n'est pas mensonge, et comme elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, à savoir Christ, quiconque demeure en lui ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits-enfants, que personne ne vous trompe, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste, celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pour cela que le Fils de Dieu est révélé en nous, afin qu'il détruise en nous les œuvres le péché du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, car sa semence demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. À ceci les enfants de Dieu se manifestent d'avec les enfants du diable, 1 Jean 3:6-10, ce qui est une manifestation et une distinction claire. De nouveau Jean dit, « Mes petits-enfants, n'aimons pas en parole ni de la langue, mais en action et en vérité. Par là nous connaissons que nous sommes de la vérité, et nous rassurons nos cœurs devant lui. » 1 Jean 3:18-19, c'est une bonne épreuve, petits-enfants. Vous êtes de Dieu, petits-enfants, et vous les avez vaincus à savoir l'Antéchrist, et le monde est son Dieu, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bonne raison pour les petits-enfants, le plus grand pour vaincre le plus petit, et quiconque l'aime à savoir Dieu qui l'a engendré aime aussi celui qui est engendré de lui. Par ceci nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous obéissons à ses commandements. 1 Jean 5:1-2, c'est une bonne épreuve et une manifestation. Et Paul dit aux Galates 4:19, « Mes petits-enfants, pour lesquels j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est un bon travail, qui devrait être celui de tout vrai chrétien, et non pas peiner à persécuter Christ là où il est formé au-dedans de son peuple, car cela est un mauvais travail. Et Jean écrit à la dame Éluse et à ses enfants, qu'il aimait dans la vérité, et dit, « Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé tes enfants marchant dans la vérité. » C'est une grande joie de voir les enfants de Dieu marcher dans la vérité. De nouveau, il écrit, « Gaius que j'aime dans la vérité, dit-il, je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre que mes enfants marchent dans la vérité. » 3 Jean 1:1-4. Or, cela concerne tous les vrais chrétiens, qu'eux et leurs enfants marchent dans la vérité, afin qu'ils aient joie et consolation en eux dans le Seigneur et sa vérité, en ce monde et dans le monde à venir. Et que tous ceux qui nomment le nom de Jésus se retirent de l'iniquité, et non pas dans l'iniquité, et qu'ils veillent à ce que leurs enfants se retirent aussi de l'iniquité. Car David dit, « Le Seigneur est tous les ouvriers d'iniquité, et il dit, « Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Et par conséquent, élevez tous vos enfants dans la discipline et la crainte du Seigneur, afin que vous eux serviez tous Dieu dans son esprit, dans votre création et votre génération, car les enfants sont l'héritage du Seigneur, et doivent être élevés dans sa crainte, et le servir et l'adorer en esprit et en vérité, car c'est le Seigneur qui donne l'accroissement de tous. C'est lui qui amène à la naissance et donne la force d'enfanter, que ce soit naturel ou spirituel, et la vie, le souffle et les âmes de tous sont dans sa main et son pouvoir. J'étais auprès de lui comme un enfant élevé avec lui. J'étais chaque jour ses délices me réjouissant toujours devant lui, me réjouissant dans les parties habitables de sa terre, et mes délices sont avec les fils des hommes. Maintenant donc, écoutez-moi, ô vous enfants, car heureux sont ceux qui gardent mes voies. Écoutez l'instruction, soyez sages, et ne la refusez pas. Pro 8:30-32. Ici vous pouvez voir l'éternité de la sagesse qui est à désirer pour la bénédiction qu'elle apporte. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Je vous ai fiancé à un seul époux, afin de vous présenter à Christ comme une vierge chaste. » 2 Cor 11:2. Jésus a dit, « Pour entrer dans le royaume, nous devons devenir comme de petits enfants innocents du péché. » Cela se réfère aux 144 000 dans l'Apocalypse qui sont vierges, non souillées par des femmes. Christ change une personne, la rendant vierge à nouveau, la convoitise étant ôtée, la souillure par des femmes étant ôtée. George Fox Faux, enseignant et prédicateur dans la chrétienté mise à l'épreuve des esprits en notre époque, comme au jour des apôtres, par l'Esprit de Christ, l'onction au-dedans. Montrant aussi que l'Église de Christ a autorité et pouvoir, venant de Christ, son chef, pour avertir, juger, reprendre et réprimander ceux qui font profession de la vérité, mais ne marchent pas et ne vivent pas dans la vérité, par George Fox. Amis et frères dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est votre rocher et fondement céleste, et votre saint sanctuaire, votre lieu de sûreté, lui qui détruit le destructeur et qui est notre sauveur, le souverain évêque de vos âmes pour veiller sur vous, et votre grand prophète que Dieu a suscité pour vous afin que vous l'écoutiez en toute chose, et le souverain berger qui a donné sa vie pour ses brebis, qui nourrit ses brebis de sa nourriture céleste et les revêt de son vêtement céleste, qu'il a acheté à prix son sang, et afin qu'elle connaît. Et Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est pourquoi, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ, rendant grâce à Dieu le Père par lui. Car, amis, vous connaissez la lumière que Dieu a commandé de faire resplendir hors des ténèbres, et qui a resplendi dans vos cœurs pour vous donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ, cette lumière est la vie en lui. Or, vous avez ce trésor céleste dans vos vases de terre, qui est de Dieu, et vous avez reçu la grâce de Dieu qui vous a apporté le salut, par laquelle vous êtes sauvés, et vos cœurs sont affermis dans l'élection et l'alliance de grâce. Or, ceux qui haïssent la lumière de Christ et marchent avec mépris contre l'Esprit de grâce, ceux-là sont de la naissance de la chair, qui persécutent ceux qui sont nés de l'Esprit. Mais, comme l'apôtre l'a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront la persécution, mais la portion du Seigneur et son peuple, et Jacob, la seconde naissance, l'élection, qui supplante l'Ésaü profane, il est le lot de l'héritage de Dieu, à savoir Jacob. Le Seigneur l'a conduit, l'a instruit, et l'a gardé comme la prunelle de son œil, tant le Seigneur est tendre envers son peuple élu. Et encore, le Seigneur a dit, « Celui qui vous touche, à savoir ses élus, son peuple choisi, touche la prunelle de l'œil de Dieu. Or, vous savez que la prunelle de l'œil est un endroit sensible. » Ainsi le Seigneur a le sentiment de tout son peuple souffrant, il est près d'eux et ressent toutes leurs souffrances. Et maintenant, amis, l'apôtre Jean écrit une épître générale à l'Église de Christ, comme je vous écris à vous, l'Église de Christ. Or, vous avez une onction de la part du Saint, et par elle vous connaissez toutes choses, et maintenant, cette onction ou onction au-dedans que vous avez reçue du Saint qui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vérité et qu'elle n'est pas mensonge, et comme elle vous enseigne et vous enseigne, vous demeurez ou persévérez dans le Fils et dans le Père, en qui vous avez la vie éternelle selon ses promesses. Or, depuis les jours des apôtres, tous ceux qui se sont éloignés de cette onction et de cet enseignement intérieur, venant du Saint, se sont égarés et ont erré loin du Père et du Fils, et ont été séduits, loin de l'onction et de l'enseignement intérieur, par lesquels ils auraient dû demeurer dans le Fils et dans le Père. Mais mes amis et frères en Jésus-Christ, vous qui avez l'onction et l'onction au-dedans de vous, que vous avez reçu du Saint, et par lesquels vous demeurez dans le Fils et le Père, par cette onction et onction au-dedans de vous, l'Église de Christ connaît toutes choses, comme l'Église de Christ les connaissait par la même onction au jour des apôtres. Et c'est pourquoi les apôtres ont dit à l'Église de Christ par cette onction, éprouvez les esprits et leur ont dit, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Là vous pouvez donc voir qu'avec cette onction, ils pouvaient éprouver les esprits, et qu'ils connaissaient l'esprit de vérité d'avec l'esprit d'erreur. Il n'a pas dit à l'Église d'éprouver seulement leurs paroles, mais d'éprouver leurs esprits, s'ils étaient de Dieu, oui ou non, car beaucoup avaient de bonnes paroles et de beaux discours, et trompaient les cœurs des simples. Et ceci n'était-il pas une sorte de chrétien qui ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ? Tels sont ceux dont les apôtres ont averti les Romains, en Rome 16, 17, 18, et tels sont ceux qui avaient la forme de la piété, mais ont renié la puissance, qui étaient emportés orgueilleux sans affection naturelle, violant les trêves. Faux accusateurs, intempérants, cruels, méprisant ce qui était bon, comparés à Jannès et Jambrès qui résistèrent à Moïse. Ainsi ceux-ci aussi résistent à la vérité, hommes à l'intelligence corrompue, réprouvés en ce qui concerne la foi, et cela n'allait-il pas sous le nom de chrétiens et de chefs, qui avaient la forme de la piété, mais en reniaient la puissance, dont l'Église devait se détourner et ne pas les suivre. Et n'y en a-t-il pas de ce genre maintenant, qui trouble l'Église de Christ, comme il le faisait au jour des apôtres, et c'est pourquoi, comme l'apôtre l'a dit, éprouvez leurs esprits s'ils sont de Dieu ou non. L'apôtre n'a pas dit à l'Église de Christ, éprouvez-les pour voir s'ils ont de bonnes paroles, de beaux discours et la forme de la piété, mais éprouvez leurs esprits s'ils sont de Dieu, oui ou non, et ainsi, s'ils n'ont pas la puissance de la piété, il faut s'en détourner. Et donc, avec l'onction au-dedans, par laquelle vous pouvez connaître toutes choses, éprouvez leurs esprits, s'ils sont de Dieu ou non, et éprouvez s'ils ont la puissance de la piété. Oui, ceux qui ont de beaux discours et de bonnes paroles et la forme de la piété, éprouvez leurs esprits s'ils sont de Dieu, et s'ils ont la puissance de la piété, et sinon, il faut s'en détourner. Et l'apôtre exhorte Timothée à éviter les discours profanes et vains, et les objections d'une science faussement ainsi nommée, que certains, en la professant, ont fait fausse route quant à la foi. C'est pourquoi l'Église doit éviter de telles choses aujourd'hui comme alors, de peur qu'elle ne s'égare quant à la vraie foi de Christ. 1 Tim 6:20-21. Phygèle, Hermogène, Hyménée et Philet, ne pensez-vous pas que cela allait sous le nom de chrétiens au jour des apôtres, bien que leurs paroles rongeront comme un chancre ceux qui les reçoivent, et de telles troublaient alors l'Église de Christ, et c'est le même esprit aujourd'hui, qui doit être éprouvé et dont il faut se détourner, et non seulement cela, mais il faut fuir les discours profanes et vains, car ils avanceront davantage dans l'impiété, c'est pourquoi il faut tenir cela hors de l'Église. Et l'apôtre exhorte Timothée à le enjoindre à savoir l'Église devant le Seigneur, qu'il ne dispute pas sur des mots sans aucun profit, et par conséquent cette crêle qui est sans profit et qui renverse ceux qui écoutent, l'ordre est maintenant donné à l'Église du Christ d'éviter de telles choses. Et si quelqu'un enseigne autrement, et ne consent pas aux paroles saines, aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine conforme à la piété, il est orgueilleux ou insensé et ne sait rien, mais il se complaît dans des questions et des disputes de mots. Ainsi, tous les membres de l'Église du Christ, à notre époque, doivent se retirer de ceux qui sont dépourvus de vérité, bien que de tels gens puissent se réclamer du nom de chrétien, comme certains pouvaient le faire au jour des apôtres, et troublaient alors l'Église du Christ, comme ils le font maintenant. Mais ne croyez pas tout esprit. Éprouvez les esprits, pour savoir s'ils ont, oui ou non, la puissance de la piété. Or l'Esprit dit expressément que quelques-uns abandonneraient la foi, ils l'avaient donc eu autrefois, et qu'ils s'attacheraient à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, proférant des mensonges avec hypocrisie, ayant la conscience cautérisée comme au fer rouge, interdisant de se marier et ordonnant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour être reçus avec action de grâce. Car toute créature de Dieu bonne notée bonne, et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car cela est sanctifié par la. Car toutes choses ont été faites et créées par la parole, et toutes choses sont soutenues par la parole. Et par la parole de Dieu, l'homme et la femme sont sanctifiés, et elle sanctifie les choses pour eux. Et ne pensez-vous pas que ceux qui avaient abandonné la foi et s'étaient attachés aux doctrines des démons, interdisant les mariages et l'abstinence de certains aliments, n'étaient pas appelés du nom de chrétiens, comme beaucoup de gens font la même chose aujourd'hui? Et c'est pourquoi l'apôtre a dit « Éprouvez les esprits, s'ils sont de Dieu ou non, et s'ils sont dans la puissance de la piété, et dans la foi des élus de Dieu. » Et l'Église du Christ aujourd'hui, comme au jour des apôtres, doit éviter les fables profanes et les contes de vieilles femmes, et s'exercer à la piété, car l'exercice corporel est de peu de profit, ou pour peu de temps. Mais la piété est utile à tous les hommes, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ainsi tous ceux qui ont souci de l'Église du Christ s'occuperont des choses qui servent à sa consolation et à son édification. Et l'apôtre donnait cet ordre à certains. Ne pas s'attacher à des généalogies sans fin, qui suscitent des questions, plutôt qu'une édification selon Dieu, qui est dans la foi, et certains s'en sont détournés pour se perdre en vaines discussions. C'est pourquoi évite les questions folles et sans instruction, sachant qu'elles engendrent des querelles. Ces choses, l'Église du Christ devait les fuir alors, et maintenant encore, et poursuivre l'édification selon Dieu dans la foi, car n'allait-il pas sous le nom de chrétien, ceux qui se détournaient vers de vains arguments, et ceux qui désiraient être docteurs de la loi, ne comprenant ni ce qu'ils disent ni l'origine de ce qu'ils affirment. Et c'est pourquoi, comme l'a dit l'apôtre, éprouvez leurs esprits s'ils sont de Dieu, et s'ils sont dans la puissance de la piété, car l'esprit qui ne comprend pas ce qui est dit de la loi ne peut comprendre ce qui est dit de l'Évangile, et n'est donc pas apte à enseigner l'un ou l'autre. Et l'apôtre exhorta Timothée 4:2-4 à prêcher la parole, à temps et à contre-temps, reprend censure, exhorte avec une entière patience et doctrine, car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais selon leur propre convoitise désir ils se donneront une foule de docteurs, ayant la démangeaison d'entendre, et ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Or, ces oreilles qui démangent, et leurs docteurs qui doivent se détourner de la vérité pour se tourner vers des fables, n'étaient-ils pas une sorte de chrétiens, qui ne pouvaient supporter la saine doctrine? C'est pourquoi leurs esprits doivent être éprouvés pour savoir s'ils sont dans la vérité et la saine doctrine. Car les oreilles, qui démangent désireuses d'entendre qu'elles sont justes, qui ont rassemblé des docteurs pour approuver leur convoitise, ont été éprouvées par l'Esprit, qui a dit qu'elles se sont détournées de la vérité pour se tourner vers des fables. Et Simon le magicien, et Déma, qui abandonna Paul et aima le siècle présent, et Alexandre, n'étaient-ils pas passés sous le nom de chrétiens? Mais l'Esprit, qui les éprouva, vit Déma devenir un homme du monde, et Simon le magicien retourner à son ancienne méchanceté. Et l'apôtre exhorte Timothée à se garder d'Alexandre le forgeron, qui lui avait fait beaucoup de mal, car il s'était fortement opposé aux paroles de l'apôtre. Ainsi vous pouvez voir ici l'apôtre, qui était un veilleur et qui éprouvait leurs esprits, ce qu'il avait éprouvé ne pas être de Dieu, ni dans la vérité, ni dans la foi, ni dans la puissance de la piété, il exhorta l'Église du Christ et les ministres à s'en méfier, à les éviter et à se détourner de tels gens. L'apôtre exhorte Tite à retenir fermement la parole fidèle telle qu'il l'a apprise, afin qu'il soit capable, par la saine doctrine, d'exhorter et de convaincre les contradicteurs opposants, car, dit-il, il y a beaucoup d'insoumis, de vains discoureurs et de séducteurs, surtout ceux de la circoncision chrétien-juif, auxquels il faut fermer la bouche, eux qui bouleversent des maisons entières enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. Ils professent connaître Dieu mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont abominables et rebelles, et réprouvent. Or, ces vains discoureurs insoumis, auxquels il fallait fermer la bouche, qui reniaient Dieu par leurs œuvres bien qu'ils parlent beaucoup de Dieu, et réprouvés pour toute bonne œuvre sans que le Christ gouverne, ces gens-là n'allaient-ils pas sous le nom de chrétiens? Et n'y en a-t-il pas trop de tels de nos jours, des discoureurs insoumis et vains, qui renient Dieu par leurs œuvres, et sont réprouvés pour toute bonne œuvre, car il y a trop de tels discoureurs insoumis et de tels professants de Dieu et du Christ en parole, mais qui le renient par leurs œuvres et sont réprouvés pour toute bonne œuvre. Ceux-là s'opposent à la pratique de la vérité et de la religion, en eux-mêmes comme chez les autres, et c'est pourquoi tous ces esprits sont éprouvés par l'onction intérieure, comme n'étant pas de Dieu, ni maintenant, ni au jour des apôtres, ni dans la puissance de la piété. Il faut donc s'en détourner, ainsi que de tous ceux qui s'attachent à des fables juives et à des commandements d'hommes, s'étant détournés de la vérité. L'apôtre exhortait Tite à ne pas s'y attacher, mais à éviter les questions folles, les généalogies, les querelles et les disputes au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vaines. Et par conséquent, tout ce qui est inutile et vain, l'Église du Christ doit s'en détourner maintenant comme au jour des apôtres, car cela est hors de la puissance de la piété, et c'est pourquoi éprouver leurs esprits, s'ils sont de Dieu ou non. Et l'apôtre a dit, « Ne reprends pas rudement un ancien, mais exhorte-le comme un père, les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes femmes comme des sœurs, en toute pureté. N'accepte d'accusation contre un ancien que sur la déposition de deux ou trois témoins. Mais un homme hérétique diviseur, après un premier et un second avertissement, rejette-le, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant lui-même. C'est pourquoi, dis-je, éprouvez de tels esprits par l'onction intérieure, pour savoir s'ils sont de Dieu ou non, car un homme s'écarte de l'esprit de Dieu avant de devenir une personne qui divise. Vous pouvez lire que les Juifs avaient les Écritures, et beaucoup qui ont été appelés chrétiens ont obtenu les Écritures, la forme de la piété. Mais les prophètes dirent aux Juifs qu'ils se rebellaient contre l'Esprit de Dieu et résistaient au Saint-Esprit, et ainsi ils éprouvèrent leurs esprits et les trouvèrent ne pas être de Dieu. De même, ceux qui se réclament du nom de chrétiens, qui ont la forme de la piété, mais en renient la puissance, doivent être éprouvés maintenant par le Saint-Esprit qui a produit les Écritures, pour savoir s'ils sont dans l'Esprit de Dieu ou non. Et le Christ parle à ses disciples des faux prophètes et des antéchrists, Matthieu 7:15-16, disant qu'ils viendraient déguisés en brebis, mais qu'au-dedans ils seraient des loups ravisseurs, et que vous les reconnaîtriez à leurs fruits. Ces faux prophètes n'avaient-ils pas l'apparence de brebis et de chrétiens, ayant revêtu l'habit de brebis, la forme de la piété, mais, intérieurement, étaient-ils privés de l'esprit et de la puissance de Dieu? Ainsi leurs fruits étaient des épines et des chardons. Éprouvez donc leur esprit et le fruit qu'ils portent, pour savoir s'ils sont de Dieu, oui ou non. Car de tels loups ravisseurs au-dedans sont des destructeurs des brebis du Christ, et ne peuvent produire de bons fruits, ni demeurer dans la pratique de la vérité et de la religion pure. C'est pourquoi le Christ leur dit de s'en garder et de ne pas les suivre, et Jean dit à l'Église, « Ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu ou non. » Et comme le Christ l'a dit, Matthieu 7:22, « Plusieurs m'appelleront Seigneur, Seigneur ou Maître et diront, nous avons prophétisé en ton nom et chassé des démons en ton nom. Or, cela n'allait-il pas sous le nom de chrétiens, et n'était-il pas de grands prédicateurs qui pouvaient prêcher au nom de Jésus et faire de tels miracles? Mais le Christ dit qu'il déclarera ne les avoir jamais connus et dira, « Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, le péché, l'absence de loi. » Et le Christ a dit, « Ce n'est pas quiconque me dit, « Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ainsi vous pouvez voir ici que ce n'est pas quiconque dit « Seigneur, Seigneur » ni ceux qui prêchent au nom de Jésus et ont la forme de la piété sans être dans la puissance de Dieu, que le Christ reçoit et qui entre dans son royaume, mais ceux qui se détournent de l'iniquité et font la volonté de Dieu, ceux-là sont reçus par le Christ et entrent dans le royaume de Dieu. Car l'apôtre lui-même a dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. » Ici l'apôtre n'avait pas seulement le souci des autres, mais de lui-même, afin d'être conservé en Jésus-Christ. Et il y avait certains juifs vagabonds, exorcistes, qui prirent sur eux d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais, disant « Nous vous exorcisons par Jésus que Paul prêche ». Et il y avait sept fils d'un certain Séva, juif et chef des prêtres, qui faisaient cela. Et l'esprit mauvais répondit et dit, « Jésus, je le connais, et Paul, je le connais, mais vous, qui êtes-vous ? » Et ainsi les esprits mauvais se jetèrent sur eux, et eurent le dessus sur eux et contre eux, de sorte qu'ils s'enfuirent nus. Ainsi vous pouvez voir ici que ce n'est pas ceux qui prennent sur eux d'user du nom de Jésus et du nom de Paul qui ont domination sur les esprits mauvais, mais ceux qui sont dans l'esprit et la puissance de Jésus, comme Paul l'était. C'est cela qui les arme et les revêt. Et tous ceux qui prêchaient la circoncision extérieure, prétendant que sans cela on ne pouvait être sauvé, et aussi ceux qui observaient des jours, des mois, des temps et des années, et pensaient être justifiés par la loi et non par la foi du Christ, cela n'allait-il pas sous le nom de chrétiens, au sujet desquels l'apôtre disait craindre d'avoir travaillé pour en vain, et desquels il disait « Je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, et si Christ n'est pas en vous, vous êtes réprouvés et prouvés défaillants. » Et ceux qui cherchaient à être circoncis extérieurement, le Christ ne leur servait de rien. Car en Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais une nouvelle créature, et par conséquent les églises ne devaient pas se tourmenter de ce qui n'a aucune valeur, mais s'attacher à la nouvelle créature en Christ. Et ces faux frères, qui étaient venus secrètement pour épier la liberté que les apôtres et les vrais chrétiens avaient en Jésus-Christ, afin de les réduire en esclavage, à cela, dit l'apôtre, nous n'avons pas cédé un instant par soumission, afin que la vérité de l'Évangile demeure avec vous, à savoir l'Église. Galates 2, 6. Et l'apôtre dit, « Mais certains paraissaient être quelque chose dans les entretiens importance mondaine, mais ils ne m'ont rien ajouté, et quels qu'ils aient été, cela ne m'importe pas, car Dieu ne fait exception de personne. » Or, ici vous pouvez voir que l'apôtre use de son autorité dans la puissance et l'esprit de Jésus-Christ sur ses faux frères qui étaient venus épier leur liberté en Christ et les réduire en esclavage. Et bien qu'ils parussent avoir quelques positions de point importance mondaine, cela n'importait pas à l'apôtre, car il savait que Dieu ne faisait exception de personne et était impartial envers tous, à cela il ne voulait pas consacrer même une heure, afin que la vérité de l'Évangile demeure avec l'Église. Mais cela n'allait-il pas sous le nom de chrétien ? L'apôtre n'a-t-il pas ici éprouvé leurs esprits pour savoir s'ils étaient de Dieu ou non ? Et bien qu'ils aient paru avoir quelques positions de poids d'importance mondaine, cela n'ajoutait rien. Et de tels gens, l'Église doit les rejeter maintenant, eux qui ramènent en esclavage. Et l'apôtre dit à l'Église des Colossiens, Col 2, 18-23, « Que personne ne vous ravise votre récompense par une humilité volontaire et par le culte des anges, s'ingérant dans des choses qu'il n'a pas vues, enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Ne s'attachant pas au chef, dont tout le corps, assisté et solidement uni par des jointures et des liens, reçoit l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à des ordonnances, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toutes choses qui périssent par l'usage, selon les commandements et les doctrines des hommes, ces choses ont, à la vérité, une apparence de sagesse dans un culte volontaire, dans l'humilité, et dans un certain mépris du corps, mais sans aucun honneur pour satisfaire la chair. Et ici l'apôtre, qui pouvait éprouver leurs esprits, voulait que les autres éprouvent leurs esprits. Et il avait souci de l'Église, et ne voulait pas qu'ils soient trompés par des intrus dans des choses qu'ils n'avaient pas vues, qui étaient vainement enflés d'un esprit charnel, et qui ne tenaient pas Christ pour chef. Cela s'était éloigné de la lumière et de l'Esprit de Dieu, par lesquels ils auraient pu voir les choses de Dieu. Ils n'étaient donc guère susceptibles d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi l'Église doit se garder aujourd'hui de telles dupes, comme au jour des apôtres, et éprouver leurs esprits, s'ils sont de Dieu ou non. Et ceux qui sont morts et ressuscités avec Christ, qui sont l'Église du Christ, ne doivent pas être assujettis aux rudiments ou éléments ou ordonnances de ce monde, car ils ne doivent ni toucher, ni goûter, ni manier les doctrines ou commandements des hommes, qui doivent tous périr par l'usage, et qui ne sont pas selon Christ ni de lui, bien qu'ils puissent avoir une apparence dans un culte volontaire et l'humilité, s'ils négligent le corps du Christ, l'Église, et ne le tiennent pas pour chef, et tout ce que cet esprit produit ne sert qu'à satisfaire la chair, ce qui ne. Et par conséquent, l'Église du Christ doit éprouver aujourd'hui les esprits de tels gens, comme au jour des apôtres, de peur d'être trompés et de ne pas recevoir sa récompense. Et encore l'apôtre dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les rudiments ou éléments de ce monde, et non selon Christ. » Ici encore, vous pouvez voir que l'apôtre avait souci de l'Église, afin qu'ils éprouvent leurs esprits et ne suivent pas ce qui n'est pas selon Christ. Et c'est pourquoi l'Église doit se garder de telles choses et de tels esprits, de peur d'être dépouillée. Et encore l'apôtre avertit l'Église de peur que quelqu'un ne les trompe par des paroles séduisantes. Et encore il dit, « Prenez garde aux chiens astérisques, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis mutilations, c'est-à-dire aux faux apôtres qui se glorifiaient de la circoncision. » Et l'apôtre les appelle « faux circoncis », ce qui est une coupure et un déchirement de la vérité. Phil 3, 2. Astérisque les « chiens » étaient ceux qui enseignaient que les aliments, les jours, les boissons, la circoncision, les dîmes, etc., étaient nécessaires, toutes choses qui sont des observances extérieures et n'ont rien à voir avec l'amour et la miséricorde intérieure dans le cœur, qui apparaissent après le nettoyage, le cœur étant purifié par la foi. Ainsi l'apôtre voulait que l'Église éprouve alors de tels esprits, ce que l'Église doit faire maintenant par l'Esprit de Dieu et l'onction intérieure, afin qu'il ne soit pas trompé par les paroles séduisantes des hommes, et qu'il se garde des chiens, des malfaiteurs et des mauvais ouvriers. Bien qu'il puisse venir déguisé en brebis, avec de beaux discours et de bonnes paroles, et une forme de piété, mais en reniant la puissance, de tels gens, l'Église doit se détourner, car le prophète a dit « Quant au méchant, qu'a-t-il à faire de prendre les paroles de Dieu dans sa bouche, lui qui est la correction ?» Et le Christ dit à de tels prédicateurs, qui sont des ouvriers d'iniquité, « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Et l'apôtre dit, 2 Tim 2,19, « Que quiconque nomme le nom de Jésus se détourne de l'iniquité, ainsi parle l'Église du Christ et tous ses ministres fidèles aujourd'hui. » L'apôtre dit à l'Église, Actes 20, 29-30, « Je sais ceci, qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et encore. » Du milieu de vous se lèveront des hommes disant des choses perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc et souvenez-vous que pendant 3 ans, je n'ai cessé d'avertir chacun nuit et jour avec larmes, et j'ai dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'Église de Dieu. Ici, vous pouvez voir le soin des apôtres pour l'Église du Christ, et avec quoi ils devaient veiller et surveiller le troupeau du Christ, et nourrir son Église, à savoir le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit et la communion de l'Église du Christ, par laquelle ils devaient éprouver les esprits qui étaient parmi eux. Ces hommes n'étaient-ils pas une sorte de chrétiens qui se lèveraient du milieu d'eux, diraient des choses perverses et entraîneraient des disciples après eux? Ne conduiraient-ils pas à une sorte de séparation d'avec l'Église? L'apôtre n'a-t-il pas dit qu'il y aurait des loups redoutables qui n'épargneraient pas le troupeau, qui entreraient parmi eux, n'avait-il pas l'habit de brebis? L'Église du Christ n'est-elle pas tenue aujourd'hui de se garder de tout cela, comme au jour des apôtres, et de veiller contre eux avec le même Saint-Esprit? Et de ne pas croire tout esprit, mais de les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. Et l'apôtre dit à l'Église, que disait l'Écriture, Galates 4:30, chasse la servante et son fils, le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre, car le fils de la servante est né selon la chair et persécutera les enfants de la femme libre née selon l'esprit, car les enfants de la femme libre, qui sont l'Église du Christ, Jérusalem qui est d'en haut, ont pour mère celle-ci. Et encore l'apôtre exhorte l'Église du Christ, et leur dit, Hébreux 12:16-17, prenez garde qu'il n'y ait aucun fornicateur, ni aucune personne profane, comme Ésaü qui pour un seul mets vendit son droit d'aînesse, car vous savez que plus tard, voulant obtenir l'héritage de la bénédiction, il fut rejeté. Il ne trouva pas de lieu de repentance, quoiqu'avec larmes il la rechercha, et l'apôtre dit à l'Église du Christ, 1 Jean 3, 11-12, « Voici le message que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres, non pas comme Caïn, qui était du malin et tua son frère, et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. L'Église aujourd'hui doit se garder de cette nature d'Ismaël, d'Ésaü et de Caïn. Bien que Caïn ait offert un sacrifice, il était donc une sorte de prêtre, mais un persécuteur et un meurtrier des justes. Et Ismaël était circoncis extérieurement et faisait partie d'une communion extérieure, et pourtant il était sauvage, moqueur et persécuteur de l'héritier de la promesse. Ésaü aussi était circoncis, lui qui méprisa son droit d'aînesse pour un plat de lentilles et un morceau de pain, et qui dit dans son cœur qu'il tuerait Jacob, la seconde naissance que Dieu a aimée. Mais Ésaü et Ismaël n'étaient pas circoncis par l'Esprit. Et par conséquent l'Église du Christ aujourd'hui ne doit pas croire tout esprit, mais éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, ou de Caïn, d'Ésaü et d'Ismaël, et si c'est le cas, s'en garder. Jean dans son épître à l'Église dit, 2 Jean 1,7 « Beaucoup de séducteurs sont entrés dans le monde, veillez sur vous-même, et quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu, et celui qui demeure dans la doctrine du Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, notez, pas cette doctrine des apôtres, ne le recevez pas dans vos maisons, et ne lui dites pas, Dieu te bénisse, car celui qui lui dit, Dieu te bénisse, participe à ses œuvres mauvaises. » Or ici l'apôtre, avec l'Esprit du Christ, avertissait en son temps l'Église du Christ de ce dont il a été question, et l'Église du Christ aujourd'hui doit veiller sur elle-même et se garder de ceux qui ne marchent pas dans les commandements du Christ et ne demeurent pas dans la doctrine du Christ. Ceux-là sont des transgresseurs et ne demeurent pas dans le Père et le Fils, bien qu'ils les professent tous deux en parole. Et l'Église du Christ avait et a l'autorité, dans la puissance et l'Esprit du Christ, de ne pas recevoir de tels gens dans leur maison, ni de leur dire « Dieu te bénisse », etc. C'est pourquoi éprouver leurs esprits s'ils sont de Dieu et n'imposer les mains à personne avec précipitation. Et l'apôtre dit 3 Jean 1, 9 « J'ai écrit à l'Église, mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi si je viens, je rappellerai les œuvres qu'il commet, débitant contre nous de méchantes paroles. » Et non content de cela, lui-même ne reçoit pas les frères, et il l'interdit à ceux qui le voudraient et les chasse de l'Église. Or ici, vous pouvez voir le souci de l'apôtre pour l'Église en ce temps-là, ce qui doit être ainsi maintenant contre de tels Diotrèphes bavards et leurs paroles malveillantes, eux qui aiment la prééminence. Et ce Diotrèphe n'allait-il pas sous le nom de chrétien? Mais Jean avait la puissance et l'Esprit du Christ pour le traiter, rappeler ses œuvres et les juger. Et l'Église du Christ aujourd'hui a de même, avec la puissance et l'Esprit du Christ, à juger et à éprouver de tels esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu ou non. De même, dans Jacques 1, 26, Jacques enseigna à l'Église à distinguer la religion pure de la fausse, chez ceux qui semblaient être religieux, et ne bridaient pas leur langue, trompant leur propre cœur dans leur vaine religion. De même, l'apôtre amena l'Église à voir qui étaient ceux qui mettent la parole en pratique, et non seulement ceux qui l'écoutent, car ceux qui étaient seulement auditeurs et non pratiquants se trompaient eux-mêmes. Et aussi l'apôtre exhorta l'Église à éprouver leur foi et leur croyance, car beaucoup diraient qu'ils ont la foi et qu'ils croient. Alors vous diriez que cela était appelé chrétien, mais l'apôtre dit, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture quotidienne, et si vous leur dites, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? De même la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même, Jacques 2, 15, 20. Et c'est pourquoi la foi vraie et vivante doit se montrer, se prouver par ses bonnes œuvres, qui nourriront l'affamé, vêtiront le nu et secourront la veuve et l'orphelin, et ainsi pratiquer la religion et la foi, qui est la victoire et donne la victoire sur le diable et ses mauvaises œuvres, c'est dans cette foi qu'ils plaisent à Dieu. Ainsi vous pouvez voir ici les pratiques de l'Église du Christ au jour des apôtres et maintenant, et qui sont les auditeurs de la parole et non les pratiquants de la parole, et qui sont dans la religion pure et sans tache, qui consiste à visiter l'orphelin et la veuve, et qui semblent religieux dans une vaine religion, et qui sont dans la foi vraie et vivante, et qui sont dans la foi morte, et qui sont dans la sagesse pure et paisible qui vient d'en haut, et ses fruits, et qui sont dans la sagesse terrestre et diabolique d'en bas, et dont la foi morte les amène à faire acception d'une personne à cause de son anneau d'or et de ses beaux vêtements, et à mépriser le pauvre. Tous ceux-là doivent voir leurs esprits éprouvés par l'Esprit de Dieu et l'onction intérieure, dans l'Église du Christ aujourd'hui, comme au jour des apôtres. Pierre, dans son épître générale à l'Église, leur dit qu'il y aura parmi de faux docteurs, qui introduiront secrètement des hérésies pernicieuses, allant jusqu'à renier le Seigneur qui les a rachetés, et attireront sur eux une ruine soudaine. Et beaucoup les suivront dans leur voie honteuse et dissolue, et à cause de la voix de la vérité sera calomniée. Et par cupidité, avec des paroles feintes, ils feront de vous leurs marchandises, et il y aura parmi eux de faux docteurs, dont le jugement, etc., ne tarde pas, et dont la condamnation ne sommeille pas. 2 Pierre 2, 1, 3. Pierre montre à l'Église l'état et l'exemple des anges déchus, de l'ancien monde et des villes de Sodome et Gomorre, de leur destruction, et comment Dieu sauva Noé, le prédicateur de la justice, et délivra le juste Lot, qui était accablé par la conduite impure des sodomites. Mais ceux-ci, à savoir les faux docteurs qui devaient venir parmi les chrétiens, dont l'apôtre parle, qui sont, comme des animaux sans raison, naturellement portés à être pris et détruits, disant du mal de ce qu'ils ne comprennent pas, se divertissant de leur propre tromperie lorsqu'ils font festin avec vous, à savoir les chrétiens, séduisant des âmes inconstantes. Ayant abandonné la droite voie, à savoir Christ, et suivant la voie de Balaam, c'est-à-dire dans l'erreur loin de l'Esprit de Dieu, ce sont des sources sans eau emportées par une tempête notées par une tempête, et ils prononcent de grands discours enflés de vanité pour séduire ceux qui leur ont échappé tout en leur promettant la liberté. Mais eux-mêmes sont esclaves de la corruption, car on devient esclave de celui par qui l'on est vaincu. Car si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Christ, ils s'y laissent de nouveau enlacer et vaincre, leur dernière condition est pire que la première. Car il aurait mieux valu pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que, l'ayant connue, de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais il leur est arrivé, etc. Le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans la boue. 2 Pierre 2, 4, 22. Or ici vous pouvez voir quel soin Pierre avait, dans son épître général de l'Église du Christ, le même soin dans la même puissance et le même esprit doit exister aujourd'hui. Et pensez-vous que ces faux docteurs n'avaient pas, ou ne portaient pas, le nom de chrétiens, qui étaient parmi les chrétiens d'alors, qui faisaient de leurs marchandises et festoyaient avec eux ayant abandonné la droite voie, mais ils pouvaient prononcer de grands discours enflés de vanité pour séduire, et promettre la liberté afin de ramener en esclavage, et il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice qu'il semble qu'ils avaient connue, qu'après l'avoir connue de s'en détourner du Saint Commandement, qui avait été. Ainsi l'Église du Christ doit aujourd'hui éprouver de tels esprits et sonner la trompette dans la Sion céleste contre de tels esprits lorsqu'ils s'élèvent. Ainsi vous pouvez voir quel genre d'esprit c'était qui promettait la liberté, et quelle liberté c'est que celle qui ramène en esclavage et dans la boue, et qui fait abandonner la droite voie du Christ en qui est la vraie liberté. Et en lui ils sont libres, et cependant sans user de leur liberté comme d'un voile pour la malice comme trop de gens le font et l'ont fait, mais usant de leur liberté comme des serviteurs de Dieu dans la justice et la sainteté. Et telle est la vraie liberté de l'Église en Jésus-Christ. Jude, dans son épître générale à l'Église, voyez quel souci il a de l'Église du Christ, et il les exhorte à combattre pour la foi, car il dit que certains hommes se sont glissés parmi vous à votre insu, ah oui, des impies, qui changent la grâce de Dieu en dissolution licence pour l'immoralité. Et c'est pourquoi il rappelle à l'Église, bien qu'elle le sache, comment le Seigneur, ayant sauvé le peuple du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas, mais murmurèrent et se rebellèrent contre lui. Et comment les anges, qui n'ont pas gardé leur premier état, mais ont quitté leur demeure, Dieu les a réservés pour des chaînes éternelles de ténèbres. Et comment Dieu renversa Sodome et Gomorre, à cause de leur méchanceté, et ils sont donnés en exemple, subissant la vengeance d'un feu éternel. Or ces exemples, l'incrédulité de ceux qui périrent en Égypte, la destruction de l'ancien monde et de Sodome, et les anges n'ayant pas gardé leur premier état ou leur demeure, les apôtres les rappelaient à l'Église, afin qu'elle demeure ferme dans la sainte foi, qu'elle combatte pour elle et qu'elle s'édifie mutuellement en elle. L'apôtre dit, « De même, ces rêveurs impurs, qui s'étaient glissés parmi eux à leur insu, des impies, qui changent la grâce de Dieu en dissolution, qui souillent la chair, méprisent la domination et insultent les dignités. Or la domination et les dignités relevaient de la puissance et de l'Esprit du Christ, mais ceux-ci aussi, dit l'apôtre, disent du mal de ce qu'ils ne connaissent pas, et ce qu'ils connaissent naturellement, comme des bêtes sans raison, c'est en cela qu'ils se corrompent, et il y en a trop de tels aujourd'hui. Mais malheur à eux, car ils sont allés dans la voie de Caïn, c'est-à-dire dans l'envie, lui qui était destructeur, meurtrier et aussi sacrificateur. Ils s'étaient détournés du Christ, la voie, celui qui est venu sauver les vies des hommes et détruire le destructeur, et ils ont couru avidement après l'erreur de Balaam pour le profit, c'est-à-dire loin de l'Esprit de Dieu, et ils ont suivi la rébellion de Corée, qui était contre la loi et contre Moïse, le serviteur de Dieu. Ainsi ils changent la grâce de Dieu, qui devrait apporter le salut, en dissolution une licence pour l'immoralité, et ont abandonné la droite voie. L'apôtre dit Jude 12, « Ce sont des tâches dans vos repas d'amour, et lorsqu'ils font festin avec vous, à savoir les vrais chrétiens, ils se repaissent eux-mêmes sans crainte. » Et ils risquaient d'amener les chrétiens à être sans la crainte du Seigneur. Et l'apôtre dit « Ce sont des nuées sans eau, emportées par les vents, alors ils étaient de la paille et non du blé. » Et l'apôtre dit « Ce sont des arbres dont le fruit se flétrit, sans fruit, deux fois morts, déracinés, alors ils n'étaient pas en état de croître, d'abord morts dans les péchés et les offenses, puis rendus à la vie par le Christ, puis morts de nouveau. Ce sont les vagues furieuses de la mer, on les reconnaît à leur fureur, écumant leur propre honte, des astres errants, non fixés dans le firmament de la puissance de Dieu, etc. Ce sont des murmureurs et des plaintifs marchant selon leur convoitise, et non selon Christ, et ceux-là prononcent de grands discours enflés, flattant les gens pour en tirer avantage. Et ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes, sensuels, n'ayant pas l'Esprit de Dieu, et comment l'auraient-ils, puisqu'ils s'en sont écartés et sont deux fois morts? Ainsi, vous pouvez voir une séparation de soi d'avec l'Esprit de Dieu dans la voie de Caïn, de Corée et de Balaam, qui change la grâce de Dieu en dissolution. Les anges déchus, l'ancien monde, Caïn, Corée, Balaam et Sodome, tels sont les exemples qu'ils suivent, eux qui sont des sources sans eau, des arbres sans fruits, des nuées sans pluie, des vagues furieuses de la mer, écumant leur propre honte, des astres errants, ayant perdu leur premier état et leur demeure, murmureurs et plaintifs. Leurs bouches peuvent prononcer de grands discours enflés et pourtant ce sont des moqueurs. Ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes, sensuels, n'ayant pas l'esprit comme plus haut, des rêveurs impurs qui sous la chair méprisent la demi. Et c'est pourquoi l'apôtre pouvait bien dire « Ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez-les s'ils sont de Dieu ». L'Église du Christ doit éprouver aujourd'hui, avec l'onction intérieure et avec l'Esprit du Christ. Il a dit d'éprouver de tels esprits et de tels fruits, et d'avoir pour les uns compassion en faisant une différence, et les autres, sauvez-les avec crainte, en les arrachant du feu, haïssant jusqu'aux vêtements souillés par la chair. Et maintenant, à celui qui est capable de vous garder de ces faux docteurs et de tomber dans leurs voies impies, et qui est aussi capable de vous présenter irréprochable devant la présence de sa gloire, c'est à lui que je vous recommande. Jean en rêve 1, 4 écrit aux sept églises, et le Christ dit à l'église d'Éphèse, « Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, montrant qu'ils avaient le pouvoir, et tu es les œuvres des Nicolaïtes que je hais aussi. Or ici, vous pouvez voir que l'Église d'Éphèse, dans la puissance du Christ, avait l'autorité de juger et d'éprouver les menteurs et les faux apôtres, ainsi que les œuvres des Nicolaïtes. Et dans ce même esprit et cette même puissance du Christ aujourd'hui, l'Église du Christ a le pouvoir d'éprouver et de juger de telles choses par l'onction intérieure, comme elle l'avait au jour des apôtres. Et c'est pourquoi le Christ a dit, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. » Jean écrit à l'Église de Smyrne, et le Christ dit, « Je connais tes œuvres, et ta tribulation, et ta pauvreté, mais tu es riche. Je connais le blasphème de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. » Ainsi, vous pouvez voir ici la puissance et l'esprit du Christ, qui jugeait ceux qui n'étaient pas dans la vérité, et le Christ dit à l'Église de Smyrne, qui devait être éprouvée, « Sois fidèle jusqu'à la mort astérisque et je te donnerai la couronne de vie, et celui qui vaincra ne sera pas atteint par la seconde mort. » Voici la promesse consolante du Christ aux fidèles. Astérisque, la mort à laquelle il se réfère est la « mort de la nature pécheresse ». C'est la première mort. Ceux qui font l'expérience de la première mort ne sont pas atteints par la seconde mort, qui est la mort du corps. Jean écrit à l'église de Pergame, et le Christ dit, « Je connais tes œuvres, et le lieu où tu demeures, là où est le trône de Satan, et tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, à savoir la foi du Christ. Mais j'ai quelques reproches à te faire, parce que tu as là des gens qui retiennent la doctrine de Balaam cupidité, et retiennent la doctrine des Nicolaïtes, chose que je hais. Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Mais à celui qui vainque, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai une pierre blanche, et sur la pierre blanche, un nom nouveau écrit, que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. » Ici, vous pouvez voir le soin et l'encouragement du Christ à l'égard de l'Église. N'était-ce pas de ceux qui disaient être apôtres, mais que l'Église trouva menteurs, et de ceux qui disaient être juifs, mais que l'on trouva être des synagogues de Satan, et de ceux qui tenaient la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes, une sorte de chrétiens mêlés alors parmi les églises, lesquels, avec la puissance et l'esprit du Christ, avaient alors autorité pour juger de tels esprits, et aujourd'hui encore, dans l'Église du Christ, pour éprouver leurs esprits, s'ils étaient et sont de Dieu. Jean écrit à l'Église de Thyatire, etc. « J'ai quelques reproches à te faire, parce que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. » Or cette Jézabel n'était-elle pas une sorte de chrétienne, que l'Église de Thyatire n'a pas usé de l'autorité, dans l'esprit et la puissance du Christ, pour juger et arrêter comme elle aurait dû le faire alors, et comme elle doit le faire maintenant dans l'Église du Christ, avec la puissance et l'esprit du Christ. Mais le Christ dit au reste de Thyatire, à ceux qui n'ont pas connu cette doctrine, à savoir celle de Jézabel, mais ce que vous avez à savoir la vérité, tenez ferme jusqu'à ce que je vienne, et celui qui vainque et garde mes paroles jusqu'à là. Ici, le Christ encourage son Église par de grandes promesses, à être fidèle dans sa puissance et son esprit, et à garder l'autorité de celle-ci alors. Et il est le même aujourd'hui envers son Église qui est fidèle dans l'autorité de sa puissance et de son esprit. Jean écrit à l'Église de Sardes et l'encourage à être vigilante et à affermir ce qui reste, qui est près de mourir, « Car je connais tes œuvres, tu as le nom d'être vivant, mais tu es mort, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » Et s'ils ne se repentaient pas, ne veillaient pas et ne retenaient pas fermement ce qu'ils avaient reçu, le Christ viendrait sur eux comme un voleur. Mais tu as à Sardes quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec le Christ en blanc, car ils en étaient dignes. Il est donc bon pour l'Église de se garder sainte, propre et pure, car le Christ a dit que cela marcheront avec lui, le Saint. Et le Christ dit à l'Église de Sardes, « Celui qui vainque sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Voilà un encouragement pour l'Église du Christ à être vaillante pour son nom et à être fidèle dans sa puissance et son esprit. Et Jean écrit à l'Église de Philadelphie, et le Christ dit, « Je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. » Voici, dit le Christ, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. N'était-ce pas une sorte de chrétien, ceux-là même qui disaient être juifs et ne l'étaient pas, mais mentaient, que le Christ par sa puissance ferait venir se prosterner devant l'église de Philadelphie. Mais le Christ dit à l'église de Philadelphie, « Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vainque, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. » Et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Or ici vous pouvez voir comment le Christ encourage son Église à être fidèle et à vaincre dans sa puissance. Et le Christ écrira le nom de Dieu, et son propre nom nouveau, et le nom de la nouvelle Jérusalem sur ceux qui vainquent, et il les fera colonne dans le temple de Dieu. Ici l'Église peut voir quelle promesse le Christ lui a promise. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a dit aux Églises, alors et maintenant. Et Jean écrit à l'Église des Laodicéens, et le Christ dit, « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Cette Église n'était-elle pas riche en profession extérieure discours sur le Christ, mais dépourvue de la possession de l'Esprit du Christ et du feu de l'Esprit de Dieu et de ses richesses par lesquelles elle aurait dû être rendue riche et voir et être vêtue du vêtement. C'est pourquoi l'Église de Laodicée et tous ceux qui sont riches en profession extérieure sans possession doivent prendre conseil du Christ, qui est la tête de son Église, et acheter du Christ de l'or éprouvé par le feu, afin qu'ils soient riches, et des vêtements blancs afin qu'ils soient vêtus, et que la honte de leur nudité ne paraisse pas, et qu'ils oignent leurs yeux de collyre, afin qu'ils voient. Voilà ce que l'Église du Christ doit recevoir de lui. Et le Christ dit, « Tout ce que j'aime, je les reprends et je les châtie, sois donc zélé et repaigne-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe, moi à savoir le Christ. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, à savoir celle de son cœur par la grâce et la lumière du Christ, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, à savoir le banquet nuptial céleste. À celui qui vainque, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ici vous pouvez voir les bienheureuses promesses du Christ, qu'il a promises à son Église, ce qui peut encourager tous à être fidèles, et à marcher et vivre par la foi du Christ, qui est la victoire par laquelle ils ont accès à Dieu. L'apôtre dit aux Philippiens, « Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car il y en a beaucoup qui marchent, dont je vous ai souvent parlé, et dont je vous parle encore maintenant en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix du Christ, et leur fin sera la perdition. » Vous pouvez voir quel soin l'apôtre avait de l'Église du Christ dans l'Esprit de Dieu. Et cela n'était-il pas une sorte de chrétien dont l'apôtre avertit l'Église, afin qu'elle ne soit pas séduite par leurs vaines paroles? C'est pourquoi l'Église du Christ doit s'en garder maintenant, et éprouver leurs esprits, s'ils sont de Dieu, car la vraie communion est dans l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre n'a-t-il pas eu beaucoup de peine avec les faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant prétendant être en apôtre du Christ? Paul dit « Ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière ». Et par conséquent, ce n'est pas une grande chose si ces ministres aussi se transforment comme des ministres de justice, dont la fin sera selon leurs œuvres. Et n'y en a-t-il pas trop de tels, qui prétendent être apôtres et ministres en ce temps, et de ceux qui se glorifient au-delà de leur mesure, et sans la mesure de l'Esprit de Dieu, ne sont-ce pas ces faux frères avec lesquels les apôtres du Christ eurent à traiter en leur temps? Et maintenant les serviteurs du Christ ont à traiter avec les mêmes et ont leur péril, eux qui, dans la puissance du Christ qui vient sur eux chaque jour, ont le soin des églises aujourd'hui, comme au jour des apôtres. Et ces faux apôtres, ces ouvriers trompeurs, qui se transformaient en apôtres du Christ, et les ministres de Satan ne se transformaient-ils pas en ministres de justice? Je dis, n'allaient-ils pas sous le nom de chrétien, et tels qui étaient enflés d'orgueil? Mais l'apôtre dit, « Je viendrai, et je ne connaîtrai pas le discours de ceux qui sont enflés d'orgueil, mais la puissance, car le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. » Car les ministres de Satan et les faux apôtres peuvent avoir de bonnes paroles et de beaux discours, et proférer de grandes paroles enflées de vanité, ayant l'habit de brebis et une apparence de piété, mais en reniant la puissance. C'est pourquoi l'Église du Christ ne doit pas croire tout esprit, mais éprouver les esprits s'ils sont de Dieu, et ne pas connaître leur discours, mais la puissance et savoir s'ils sont dans la puissance de la piété, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est donc une connaissance sûre que de connaître les gens non par leur discours, mais par la puissance de Dieu, et par l'onction et l'Esprit du Christ au-dedans d'éprouver les esprits s'ils sont de Dieu ou non. Car l'unité de l'Église du Christ est dans l'Esprit qui est le lien de la paix, et leur fraternité, leur consolation et leur communion sont dans le Saint-Esprit, qui conduit l'Église du Christ dans toute la vérité, laquelle procède du Père et du Fils. Jean ne dit-il pas, au sujet des antéchrists et des faux prophètes, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, à savoir l'Église du Christ, mais ils sont sortis, afin qu'il fût manifesté qu'ils ne sont pas tous des nôtres. » Et ainsi maintenant beaucoup de tels sont sortis de l'Église du Christ, afin qu'il fût manifesté qu'ils n'étaient pas des nôtres. Mais l'Église du Christ, au jour des apôtres et aujourd'hui, en est une onction du Saint qui procède du Père et du Fils, et l'Église du Christ n'a besoin que personne lui enseigne, mais c'est la même onction qu'il enseigne, et comme elle les enseigne, ils demeureront dans le Fils et dans le Père, d'où vient cette onction, par laquelle l'Église du Christ connaît toutes choses. Oui, il connaîtrait ceux qui voudraient les séduire loin de cette onction. Oui, il connaîtrait les antéchrists, les séducteurs et les faux prophètes qui sortent de l'Église, qui ne sont pas de l'Église, quoiqu'ils puissent avoir une apparence de piété, de beaux discours et de bonnes paroles, mais en renier la puissance. De telle, l'Église du Christ doit se détourner, elle qui connaît la puissance des paroles avec l'onction, et l'Esprit du Christ peut éprouver leurs esprits, ayant l'esprit de discernement pour savoir s'ils sont de Dieu, et ainsi ils ne doivent ni croire ni suivre tout esprit, mais les éprouver d'abord, en quoi ils croient et quoi ils suivent. Telle était la pratique de l'Église du Christ au jour des apôtres, qui doit être la même maintenant dans l'Église du Christ, par cette onction ils demeurent dans le Père et dans le Fils, comme il a été dit, et en elle ils ont communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Et dans l'Ancien Testament, le Christ était prêché et présenté par des promesses et par des figures, types et ombres, et par les prophètes et les prophéties. Et lorsque le Christ fut venu, les apôtres démontrèrent par la loi, les prophètes et l'Ancien Testament, que Jésus était le Christ aux Juifs qui avaient la loi et les promesses, Moïse et les prophètes. Ainsi par les Écritures, Moïse et les prophètes, ils prouvèrent que Jésus était le vrai Christ. Et ils étaient nobles, ceux qui examinaient les Écritures pour voir si ces choses étaient ainsi, comme les apôtres prêchaient au sujet du Christ. Et le Christ se manifesta comme étant le vrai Christ, par sa prédication et sa doctrine, ses miracles, ses souffrances, sa mort, sa résurrection et son ascension, et en envoyant le Saint-Esprit, et en apparaissant dans son peuple, comme étant le vrai Christ et le Fils de Dieu. Après que le Christ fut ressuscité, et qu'il eut prêché tant aux Juifs qu'aux gentils, et que beaucoup crurent en lui, l'apôtre leur dit de s'examiner eux-mêmes et de s'éprouver eux-mêmes, comment Jésus-Christ était en eux, sinon ils seraient réprouvés. Ainsi vous pouvez voir, voici deux preuves. Premièrement, prouver que Jésus était le Christ par Moïse, la loi et les prophètes. La seconde preuve était qu'après que les Juifs et les gentils eurent cru au Christ, ils devaient s'éprouver et s'examiner eux-mêmes pour savoir si Jésus-Christ était au-dedans d'eux, sinon, ils étaient réprouvés. Il dit encore, « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Il dit encore, « Afin que nous présentions tout homme parfait dans Jésus-Christ, et que le Christ règne en vos cœurs par la foi, et celui qui a le Fils de Dieu a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, et le Christ a été manifesté dans la chair pour condamner le péché dans la chair, afin que par lui nous devenions justice de Dieu en Christ, et de tels s'asseyaient ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ainsi l'Église, les saints maintenant, avec l'onction au-dedans d'eux et l'Esprit du Christ, doivent éprouver qui est dans la puissance de la piété et qui ne l'est pas, et éprouver la puissance des paroles, et ceux qui font profession du Christ sans la vie. Et si le Christ, la vie, n'est pas en eux, ils sont réprouvés. C'est pourquoi nous ne devons pas croire tout esprit, quoiqu'il ait une apparence de piété et de bonnes paroles, et de beaux discours, avec l'habit de brebis. Mais nous devons éprouver leurs esprits, s'ils sont de Dieu, oui ou non. C'était et c'est la pratique de l'Église du Christ avec l'onction au-dedans, qu'ils tiennent du Père et du Fils, laquelle est suffisante pour l'Église du Christ afin d'éprouver par elle. Car l'apôtre dit, « Par elle ils connaissent toutes choses, or toutes choses ont été créées par Jésus-Christ. » Éph 3:9. « Et toutes choses ont été faites par Christ, la parole, Jean 1:3. » Ainsi il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Col 1:17. Et le Christ est héritier de toutes choses, par qui Dieu a fait les mondes, et il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Hébreux 2:3. Celui à qui toute puissance a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Cor 5:17-18. Christ par qui le monde a été fait, je dis réconciliant toutes choses avec lui-même, soit les choses qui sont dans le ciel, soit celles qui sont sur la terre, par Jésus-Christ, par qui Dieu a fait toutes choses dans le ciel et sur la terre, afin qu'il réconcilie toutes choses avec Dieu, lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Col 1, 20-21, lui qui écrase la tête du serpent met à mort l'ennemi, et détruit le diable et ses œuvres, afin que dans l'administration de la plénitude des temps, Dieu réunisse toutes choses en un ancre. Et fin 10, ainsi juifs, gentils, mâles, femelles, esclaves ou libres, tous sont un en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit qu'il devait faire voir à tous les hommes ce qu'est la communion du mystère, qui dès le commencement du monde a été caché en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Éph 3:9. Ainsi cette communion a été un mystère caché depuis le commencement du monde, ainsi que leur communion dans le monde. Mais maintenant, elle est manifestée en Christ, par qui les mondes ont été faits, à savoir à son Église. Et Dieu, qui est fidèle, nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, 1 Cor 1:9, comme il appela l'Église au jour des apôtres. Et Jean, dans son épître général à l'Église du Christ, dit, « Afin que vous aussi vous ayez communion avec nous, et vraiment notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Ainsi voici la véritable communion de l'Église avec Dieu et le Christ, et les uns avec les autres, ceux qui marchent dans la lumière, qui est la vie en Christ, et non les vains parleurs de la lumière et ceux qui marchent dans les ténèbres. Et David dit, « Le trône d'iniquité aura-t-il communion avec toi, à savoir le Seigneur, lui qui forme le mal ?» Psaume 94, 20. Car l'apôtre dit 2 Cor 6, 14, « Quelle communion y a-t-il entre la justice et l'injustice, ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Et l'apôtre dit à l'Église, « Je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. » Et l'apôtre dit à l'Église du Christ que leur communion était dans l'Évangile, la puissance de Dieu qui était avant que le diable fût, et avant ses communions. Et de telles en viennent à connaître la puissance de la résurrection du Christ, et la communion de ses souffrances. Et de telles avaient communion avec le Père et avec le Fils après que le Christ fut ressuscité, et de telles n'avaient point communion avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt les reprenaient. Et l'apôtre dit, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Christ ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ ? Car nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul pain et un seul corps, parce que nous participons tous à ce seul pain. N'est-ce pas ce pain, le Christ, qui descend du ciel, comme en Jean 6, 51 ? N'est-ce pas son sang, dont le Christ dit, « Ils doivent manger et boire s'ils ont la vie en eux ?» Dans ce pain et ce sang est la communion des saints. Et la communion des saints et de l'Église du Christ maintenant, comme au jour des apôtres, est dans le Saint-Esprit, 2 Cor 13, 14, qui procède du Père et du Fils, et les conduit dans toute la vérité. Et la communion de l'Église du Christ n'est pas dans ce qui procède des hommes d'en bas, mais dans ce qui procède de Dieu et de son Fils, à qui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Il y a beaucoup d'opposants à l'ordre de la vérité et au glorieux évangile du Christ, la puissance de Dieu, qui n'ont jamais grandi dans la vérité, bien qu'il ait quelque ouverture et quelques vues, et peut-être soit-il allé aussi loin que Corée, Dassen et Abiram, et aussi loin que Cain et Balaam, et aussi loin que ce dont j'en parle dans son épître générale, qui sortirent du milieu de nous. Et s'ils avaient été des nôtres, sans doute seraient-ils demeurés avec nous, et tel que l'apôtre en parle, s'est emporté orgueilleux, arrogant, farouche. Cela pouvait être auditeurs et parleurs de la parole, mais non faiseurs de la parole, et se vanter de la foi, de la croyance et de la religion, mais être en dehors des œuvres et de la pratique de la foi vivante, de la croyance et de la religion pure. Et il y en a trop de tels maintenant, comme il y en avait alors au jour des apôtres, qui professent connaître Dieu, mais qui le renient par leurs œuvres, étant abominables, désobéissants et réprouvés pour toute bonne œuvre. Et Pierre et Jude s'élèvent aussi contre des rêveurs impurs, qui méprisent la domination et disent du mal des dignités, qui sont présomptueux, arrogants, des puits sans eau et des arbres sans fruits, deux fois morts, déracinés, emportés par les vents ou par la tempête, nuée sans pluie, vagues furieuses de la mer, écumant leur propre honte. Ce sont des murmureurs et des plaintifs. Et de leur bouche ils profèrent de grandes paroles enflées, et ce sont ceux qui se séparent, sensuels, n'ayant pas l'esprit, mais s'en étant égarés comme Balaam. Et alors ils parlent mal de la domination et des dignités, comme Corée et sa compagnie le firent contre la loi de Dieu et Moïse. Et ainsi font-ils contre les dignités et les dominations de la vérité, et l'Esprit et la puissance de Dieu, l'Évangile, et ses apôtres et ministres de l'Esprit et de l'Évangile du Christ, et le Saint-Ordre de la vérité et l'Esprit et l'Évangile du Christ, dont le... Et l'apôtre dit, « Que les anciens qui président bien soient estimés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la parole et à l'enseignement. Or, ceux qui travaillent à la parole travaillent en cette parole par laquelle toutes choses ont été faites et créées, et en cette parole qui soutient toutes choses par sa puissance. » Et Jean dit, « Au commencement était la parole de vie, que nous avons entendue, que nous avons vue, que nous avons contemplée, et que nos mains ont touché la parole de vie. Ainsi les anciens travaillent dans la parole de vie, qui était au commencement, et toutes choses ont été faites par elle. Et c'est la parole de réconciliation, qui est confiée au ministre de l'Esprit du Christ. Ainsi ils travaillent dans cette parole, par laquelle ils sont rendus nets et sanctifiés, et par cette parole toutes choses leur sont sanctifiées, par laquelle parole ils ont été rendus bons, eux qui travaillent dans la parole par laquelle toutes choses ont été faites. Et c'est la parole qui réconcilie le peuple de Dieu avec Dieu, et toutes choses dans le ciel et sur la terre. Et c'est la parole par laquelle tous les enfants de Dieu renaissent de la semence immortelle, par la parole de Dieu, et se nourrissent du lait de la parole par laquelle toutes choses ont été faites. Cette parole vit et demeure à jamais. Et c'est cette parole qui, par l'Évangile, vous est prêchée, à savoir à l'Église. Et j'en dis que l'ancien commandement est la parole, que vous avez entendue dès le commencement, et qu'elle est appelée la parole de foi, la parole de sagesse, la parole de patience, la parole de puissance et la parole de vie. Dans cette parole, les ministres de l'Esprit travaillaient, et l'Église du Christ était lavée par l'eau de la parole. Et c'était la parole qui fut accomplie envers Jacob, et qui apparut si souvent aux prophètes, par laquelle ils virent le Christ venir bien des années avant qu'il vînt, fut manifesté dans la chair. Et c'était là. Et l'apôtre dit à l'Église de Rome, « Saluez Urbain, notre aide en Christ. Ainsi les vrais ministres de l'Esprit étaient les aides en Christ, le second Adam. Et encore l'apôtre dit, « Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur, ainsi ceux-là étaient dans des familles religieuses qui étaient dans le Seigneur. Et saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent dans le Seigneur. Et saluez Persie qui a travaillé dans le Seigneur, ainsi vous voyez comment les ministres du Christ travaillaient dans le Seigneur alors et maintenant. » Et l'apôtre dit aux Corinthiens, « Nous sommes collaborateurs de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. » Et l'apôtre dit, « Soumettez-vous à de tels hommes, et à quiconque coopère avec nous et travaille dans le Seigneur. » Et l'apôtre dit aux Philippiens, « Je te prie, fidèle compagnon de joug, aide ces femmes qui ont travaillé avec moi dans l'Évangile, ainsi que Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Ici vous pouvez voir que les femmes, aussi bien que les hommes, travaillaient dans l'Évangile, la puissance de Dieu, dont les noms étaient écrits dans le livre de vie. Ainsi les apôtres et les ministres pouvaient alors, et les saints maintenant avec l'onction au-dedans éprouver les esprits, et pouvaient et peuvent discerner qui travaille dans le Seigneur, et dans la parole et l'Évangile, d'avec les ministres de la lettre. Or, à celui qui a la puissance de vous affermir selon mon Évangile, à savoir celui du Christ et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère, tenu secret depuis le commencement du monde, mais maintenant manifesté, et par les Écritures des prophètes, selon l'ordre du Dieu éternel et non selon l'ordre des hommes, porté à la connaissance de toutes les nations pour l'obéissance de la foi, Rome 16, 25-26. Et ainsi maintenant encore, le même Évangile est prêché à ceux qui s'en sont écartés depuis les jours des apôtres. Ainsi, que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, et que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Amen, et Dieu le Père, qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par sa grâce, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne parole et en toute bonne œuvre. Or, vous tous, mes chers amis et frères en Jésus-Christ, dans les entrailles de Jésus-Christ, considérez toutes ces choses pour votre bien et votre consolation en lui. Amen. Vous pouvez voir dans le psaume 112 comment la piété a la promesse de cette vie et de celle à venir. Et David dit, « Heureux l'homme qui craint le Seigneur, assurément il ne sera jamais ébranlé, et le juste sera en mémoire éternelle, noté, mémoire éternelle. » Encore dans le psaume 24, 7, « Les citoyens du royaume spirituel de Dieu, levez vos têtes, dit le Christ aux portes, et élevez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est le roi de gloire? Le Seigneur des armées, c'est lui le roi de gloire. Et où entre-t-il, sinon dans les cœurs de son peuple? » Dans Prov 10, 25-32, « Comme le tourbillon passe, ainsi le méchant n'est plus, mais le juste est un fondement éternel. Le juste ne sera jamais ébranlé. Les lèvres du juste savent ce qui est agréable, mais la bouche des méchants parle avec perversité. » Isa 56, 5, « Le Seigneur dit à ceux qui ont été fidèles, « Je leur donnerai, dans ma maison et dans mes murs, une place et un nom meilleur que des fils et des filles. » Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas retranché. Vous pouvez voir la gloire et l'accroissement de l'Église dans Isa 60. Le Seigneur dit, « Alors que tu as été délaissé et haï, je ferai de toi une excellence éternelle, une joie pour beaucoup de générations, tu appelleras tes murs salut et tes portes louanges. » Et Jérémie dit, « Le Seigneur est avec moi. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront, ils ne prévaudront pas, ils seront grandement confus car ils ne prospéreront pas, leur confusion éternelle ne sera pas oubliée. » Jer 20, 11, « Et je ferai venir sur vous un opprobre éternel et une honte perpétuelle qui ne sera jamais oubliée. » Jer 23, 40, « Ici vous pouvez voir les jugements du Seigneur sur les méchants juifs. » Et encore, la promesse du Seigneur est pour les fidèles, lui qui dit, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. Je te rebâtirai, et tu seras rebâti, ô Vierge d'Israël. » Jer 31, 3, 4, et le Christ dit, « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, notez, à la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean 3, 36. Mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai, à savoir le Christ, n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, 14. Et l'apôtre exhorte les Galates à demeurer fermes, eux qui étaient aimés du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu le Père, qui nous a donné une consolation éternelle, et qui punira les méchants d'une destruction éternelle loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. 2 1 9. Or ici vous pouvez voir la misère éternelle des méchants, et le bonheur éternel du peuple fidèle de Dieu. Et le Christ dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et nul ne peut les ravir de la main de mon Père. » Jean 10, 27-29. Il est donc bon pour toutes les brebis du Christ de suivre le Christ, le berger, qui vous donne la vie éternelle et garde ses brebis de ceux qui voudraient les détruire. Mais ils ne peuvent les ravir de la main du Christ, le berger, ni du sanctuaire du Christ, en qui elles ont paix et sûreté. Et dans les pâturages de vie du Christ, il nourrit ses brebis de la vie éternelle, elles qui entendent le Christ, le second Adam, sa voix céleste, distincte de la voix du diable et de ses anges, et de toutes les voix des fils et des filles de l'Adam naturel d'en bas. George Fox, post-scriptum de l'éditeur du site. Considérez les écrits des hommes suivants pour comprendre comment les faux apôtres et les ministres de Satan ont complètement pris le contrôle de la chrétienté, un pilier principal et saint de la secte romaine. Augustin écrivit « Pourquoi ? L'Église ne devrait-elle pas user de force pour contraindre ses fils perdus à revenir, si les fils perdus ont contraint d'autres à leur destruction ? » Un exemple classique de « la fin justifie les moyens » qui perd de vue le commandement principal du Christ, aimer ses ennemis, non les détruire. Un autre supposé saint, un autre pilier est supposé saint. De la secte romaine, Thomas d'Aquin écrivit, « Pour ce qui est de l'Église cependant, il y a une miséricorde qui vise la conversion de l'égaré. C'est pourquoi elle ne condamne pas aussitôt, mais après un premier et un second avertissement, comme l'apôtre l'ordonne. Après cela, s'il demeure obstiné, l'Église n'espérant plus sa conversion, vise le salut des autres en l'excommuniant et en le séparant de l'Église, et de plus le livre au tribunal séculier afin qu'il soit exterminé du monde par la mort. » Un autre supposé saint, Jean Calvin, fut l'un des principaux fondateurs du protestantisme, exerçant une grande influence sur les presbytériens, les congrégationalistes, les baptistes et même les luthériens. Calvin fit arrêter Servet, rédigea contre lui des accusations d'hérésie et témoigna contre lui lors de son procès. Le « crime » de Servet fut d'avoir nié l'appui scripturaire de la Trinité et du baptême des enfants. Les accusations de Calvin et son arrestation aboutirent à ce que Servet fut brûlé vif. Jacques Gruet, opposant notoire de Calvin, fut arrêté, torturé pendant un mois et décapité le 26 juillet 1547 pour avoir placé une lettre dans la chair de Calvin l'accusant d'être un hypocrite. Calvin fit aussi brûler vif 34 femmes comme sorcières, accusées d'être responsables d'une peste, tandis qu'un autre récit attribue à sa théocratie à Genève 58 condamnations à mort. Calvin justifia l'exécution des hérétiques, écrivant « Quiconque soutiendra qu'on fait tort aux hérétiques et aux blasphémateurs en les punissant se fait complice de leurs crimes et coupable comme eux. » Il n'est pas question ici de l'autorité de l'homme, c'est Dieu qui parle, et il est clair quelle loi il veut voir observer dans l'Église jusqu'à la fin du monde. Pourquoi donc exige-t-il de nous une sévérité si extrême, sinon pour nous montrer que l'honneur qui lui est dû ne lui est pas rendu, de sorte que nous n'épargnions ni parenté ni le sang de qui que ce soit, et que nous oublions toute humanité quand il s'agit de combattre pour sa gloire. Les apologistes de Calvin, répandant le sang et oubliant toute humanité, font valoir que bien d'autres protestants ont aussi tué des hérétiques, la défense tout le monde le faisait, mieux vaut dire, tous les grands hommes de Dieu, alors étaient des meurtriers. Jésus a dit, « Quiconque vous tuera pensera et prétendra avoir rendu service à Dieu. » Jean 16, 2. Un autre fondateur protestant vénéré fut Martin Lude, plein de haine envers les Juifs. D'après l'article Wikipédia sur Martin Lude et d'après l'article Wikipédia sur la nuit de cristal, la nuit des vitres brisées, Lude au début préconisa la bonté envers les Juifs, mais seulement dans le but de les convertir au christianisme, ce qu'on appelait Judas Mission. Quand ses efforts de conversion échouèrent, il devint de plus en plus amé à leur égard. Ses principaux écrits sur les Juifs furent son traité de 60 000 mots Vonden Juden und ihren Lügen, des Juifs et de leurs mensonges, et Vom Schem Amphoras und Vom Geschlecht Christi, du Saint-Nom et de la lignée du Christ, réimprimé 5 fois de son vivant, tous deux écrits en 1543, 3 ans avant sa mort. Il soutenait que les Juifs n'étaient plus le peuple élu, mais étaient le peuple du diable. Ils étaient un peuple vil et putassier, c'est-à-dire pas un peuple de Dieu, et leur vantardise de lignée, de circoncision et de loi doit être considérée comme de la saleté. La synagogue était une épouse souillée, oui, une putain incorrigible et une salope mauvaise. Et les Juifs étaient pleins de merde du diable, dans laquelle ils se vautrent comme des porcs. Ils préconisaient d'incendier les synagogues, de détruire les livres de prière juifs, d'interdire aux rabbins de prêcher, de saisir les biens et l'argent des Juifs, de saccager leurs maisons, et de faire en sorte que ces vers venimeux empoisonnés soient contraints au travail forcé ou expulsés pour toujours. Ils semblaient aussi cautionner leurs meurtres, écrivant « Nous avons tort de ne pas les tuer ». La persécution nazie des Juifs en Allemagne commença à grande échelle lors de la nuit de cristal, la nuit des vitres brisées, au cours de laquelle 200 synagogues furent incendiées. Des livres juifs, des rouleaux et des antiquités furent brûlés. 7500 vitrines de commerce juifs furent fracassées, d'où le nom de vitres brisées. Des pierres tombales et des sépultures furent arrachées. 30 000 Juifs furent arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. au moins 100 furent immédiatement assassinés, et de nombreuses maisons furent pillées. Un pogrom similaire d'ampleur comparable eut lieu à Vienne, en Autriche, la même nuit. Ces événements eurent lieu les 9 et 10 novembre 1938, l'anniversaire de Lude était le 10 novembre. Le conseil de Lude fut appliqué à la lettre lors de la nuit de cristal. Ce fut le début de la solution finale et de l'Holocauste. Selon Michael, l'œuvre de Lude acquit le statut d'écriture en Allemagne et il devint l'auteur le plus lu de sa génération, en partie à cause de la nature grossière et passionnée de ses écrits. Le point de vue dominant parmi les historiens est que sa rhétorique anti-juive contribua de façon significative au développement de l'antisémitisme en Allemagne et qu'elle fournit, dans les années 1930 et 1940, une base idéale aux attaques des nationaux-socialistes nazis contre les Juifs. Reinhold Lewin écrit que « quiconque écrivait contre les Juifs, pour quelque raison que ce soit, croyait avoir le droit de se justifier en se référant triomphalement à Lude. Selon Michael, à peu près chaque livre anti-juif imprimé dans le Troisième Reich contenait des références et des citations de Lude. Heinrich Himmler écrivit en 1940 avec admiration au sujet de ses écrits et sermons sur les Juifs. La ville de Nuremberg offrit une première édition de Des Juifs et de leurs mensonges à Julius Treschow, rédacteur du journal nazi Der Stürme, pour son anniversaire en 1937. Le journal le décrivit comme le pamphlet le plus radicalement antisémite jamais publié. Le 17 décembre 1941, sept confédérations régionales d'églises protestantes publièrent une déclaration approuvant la politique obligeant les Juifs à porter l'étoile jaune, puisque, après son amère expérience, Lude avait déjà suggéré des mesures préventives contre les Juifs et leur expulsion du territoire allemand. Peut-être commencez-vous à voir que la chrétienté a été transformée en synagogue de Satan, avec des ministres de Satan transformés pour paraître être des ministres de justice. Augustin et Thomas sont deux des quatre piliers du catholicisme romain. Calvin et Lude sont les principaux fondateurs du protestantisme. Si les fondateurs vénérés des sectes sont mauvais, comment les sectes qui l'ont fondée ne seraient-elles pas mauvaises? Livre de doctrine 6, suite retour à l'index doctrinal. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.